Oui, bonsoir Daniel, c'est Françoise, j'appelle de Saint-Martin-la-Plaine. Écoute, tu as le don de nous faire passer du rire aux larmes, parce qu'alors je riais toute seule dans ma voiture avec la chanson « Raffarin, nous voilà ». Et puis avec ton émission, eh bien j'avais la gorge nouée et j'ai versé une petite larme. Et puis ça fait du bien, parce que moi je vis dans une société d'avoir, et ça fait du bien de temps en temps d'être une femme de lettres. Voilà, je vous fais des bisous à tous, et je vous remercie pour vos belles émissions. Au revoir.
Ici Hélène Moreau, j'ai 23 ans, je suis musicienne, je vis à Lyon. Je voulais vous dire un grand merci pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai été très émue par la voix d'Odette, je crois, qui m'a fait penser à la voix de mon grand-père que j'ai perdu il y a peu de temps, pour son émotion, ses larmes, son sourire, tout ça. Et il est bon que des émissions comme la vôtre rappellent un petit peu tout ça dans notre monde un peu amnésique. Bravo aussi aux intermittents pour leurs chansons. Et bravo à toute l'équipe. Au revoir.
Bravo et merci Daniel Mermet pour votre émission sur les lettres émouvantes et sublimes des prisonniers condamnés à mort. Je suis heureuse de la publication du livre « La vie à en mourir » que je vais lire avec ferveur. J'ai 74 ans, j'ai connu la guerre, cachée avec ma famille en Ardèche et aidée et protégée par les habitants du hameau de Bise près d'Entraigues. Un peu de gaieté avec la chanson sur Raffarin, elle est super. De tout cœur avec vous et votre équipe, Yvette Lévy de Roquefort-la-Bédoule. Au revoir.
Bravo et merci d'avoir pendant une heure parlé de cet émouvant recueil de lettres des fusillés. Merci aussi à Odette qui a su maîtriser sa peine pour parler de notre Guy Moquet. Merci. Georges Sanslaville, Vénissieux. Au revoir.
Écoute, je t'appelle parce que une fois de plus, ton émission est super. Mais j'aurais juste un petit mot à dire, étant neveu d'un déporté qui est revenu, lui, que ces gens-là, ils sont revenus avec la mort dans leur tête et que c'est 40 ans de sa vie qu'il a été mort. Voilà, c'était Jean Lamberger. Il y a eu un film où on a parlé de lui, qui s'appelle « Des terroristes à la retraite », qui a fait un scandale au sein du Parti communiste. Et il y a Gérard Israël aussi qui a écrit son histoire. Voilà, ciao.
J'ai été très surpris d'entendre l'affiche rouge, interprétée par je ne sais qui, mais moi j'ai passé ma journée à écouter aujourd'hui l'affiche rouge interprétée par Léo Ferré. J'ai trouvé que, bon, ça pouvait faire bizarre. Je suis en train de lire Vercors aussi en ce moment, donc je suis à fond plongé dedans. Je voulais dire bonjour, un grand bonjour et un grand merci à cette dame, l'amoureuse et conduite, entre guillemets, par Guy Moquet. Je voulais dire bonjour aussi à mon grand-père qui a été fusillé cette année par la canicule, alors qu'il aurait pu l'être en effet il y a 55 ans. Voilà, merci Monsieur Mermet, et continuez à passer du coq à l'âne, et on continuera de vous écouter.
Je suis Jo, j'appelle de Saint-Quentin-la-Poterie. À la suite de l'émission d'hier, Daniel, je voulais aussi donner un nom d'un garçon qui a été fusillé. Il s'appelait Christian Savary, il avait 20 ans, et il a été fusillé en Bretagne. Il a même été dénoncé. Je connaissais la famille puisque j'étais chez eux pendant l'occupation. Et d'avoir entendu cette émission, ça m'a vraiment remis plus de 60 ans en arrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au revoir.
Je suis très émue par les lettres magnifiques que tu nous as lues hier, moi et d'autres, hein, bien sûr. Et quand on se promène dans les villes et les villages de notre pays, on lit sur des plaques, des rues et des places l'inscription aux martyrs de la résistance, avec des dates, les noms de ces martyrs qu'on appelait terroristes. J'ai passé cet été sur une route de Haute-Savoie devant un musée de la résistance. À l'entrée, il y avait un grand mur blanc visible de la route. avec une inscription géante, vivre libre ou mourir. Voyant cette inscription, j'étais frappée par l'idée qu'au même moment ailleurs, des hommes, des femmes, des enfants meurent pour la même raison. Sous les bombes, les missiles, les balles d'une armée d'occupation, écrasés sur les chenilles des chars, des bulldozers, enterrés sous les décombres de leur maison, vivre libre ou mourir. Chaque jour depuis des années, en ce moment même, ils tombent et on les appelle des terroristes. Les lettres que tu nous lisais hier de ceux qui sont tombés chez nous parlent aussi pour eux. Ils pourraient écrire les mêmes mots, mais pas en français. Merci de nous avoir lu ces lettres magnifiques. Merci.
Je vais avoir 79 ans, mais hier, j'ai eu 15 ans. Parce que j'ai entendu l'hymne au maréchal et qu'un digne maréchal n'avons-nous pas aujourd'hui. Alors écoutez, j'ai trouvé ça ravissant, j'ai ri comme une folle. Et j'aimerais bien qu'on le entende, ou tout au moins, est-ce que je peux vous envoyer une enveloppe timbrée, quelque chose comme ça, pour avoir le texte? Faut avoir ce texte. Je vous remercie. Ne me passez pas aujourd'hui sur le, comment ça s'appelle, dans le courrier, parce que je vais être chez le médecin pour cet après-midi. Passez-le demain. Merci.
Oui, mais demain, c'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a repassé, votre message, madame. Alors, j'espère que vous vous êtes écouté. Vous entendez? Eh oui, je crois que les intermittents de messe sont encore en train de préparer un mauvais coup. Et vous avez été nombreux, c'est vrai, mais très très nombreux, à réagir sur leur version particulière de Maréchal, nous voilà, c'est devenu Raffarin, nous voilà. Alors il y a ceux que ça fait rigoler, il y a ceux qui sont indignés, ben, c'était tout à fait prévisible. Et je dirais que dans une large mesure, je crois que c'était leur intention. Voilà, aujourd'hui on retrouve le livre de la vie à en mourir, lettre de fusillé de 1941-1944. Hier, on a entendu ces quelques-unes de ces lettres lues, alors je le rappelle, je le redis, non pas par des comédiens, mais par des jeunes gens que Thierry Scharf a su trouver, qui ont le même âge que ceux qui ont été fusillés il y a maintenant 60 ans, 58 ans, enfin durant cette guerre. Et c'était on voudrait vraiment rapprocher ça de notre aujourd'hui. À quoi sert l'histoire si elle ne sert pas à nourrir l'aujourd'hui, à faire rêver sur l'aujourd'hui et à donner du sens à l'aujourd'hui et l'émotion qui est dans vos messages, dans toutes les réactions qu'on a eues, montre que vous savez, vous avez parfaitement compris le processus de réappropriation de cette superbe mémoire. On pourrait dire que ça fait partie des choses que les Français savent par cœur, les choses qu'on sait par cœur, évidemment, la fiche rouge. Alors je voudrais dire à cet auditeur que c'est Catherine Ribeiro qui interprète et qui a osé interpréter la fiche rouge après Léo Ferré, et puis la copine, la petite amie de Guy Moquet qu'on a entendu hier, eh bien elle s'appelle Odette Milès, elle est absolument superbe, elle a 80 ans maintenant et elle est toujours aussi bouleversante et encourageante. Ces gens-là n'ont pas perdu. D'autres messages auparavant sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Depuis hier matin à toutes les heures, et aujourd'hui c'est reparti depuis ce matin à toutes les heures, le déficit de la Sécu et l'analyse de la Cour des comptes. Ça vous paraît pas suspect ce matraquage? Toutes les heures, c'est les mêmes informations, les mêmes analyses. Enfin, remarquez, il n'y a pas du tout d'analyse, puisqu'on reprend le communiqué de la Cour des comptes. Moi, ça me paraît suspect ce matraquage. J'y crois pas, au déficit de la Sécu. Et ça me rappelle un autre de matraquage. C'était il y a un an, c'était la réforme des retraites. Pareil. Pendant des semaines et des jours, on nous a bassiné le mou avec la réforme des retraites. La nécessité d'une réforme. Et ça a commencé de la même façon. Il y a un bilan alarmiste. Derrière, on va voir le droit, cette fois-ci pour la Sécu comme pour les retraites, au défilé d'experts, qui vont dire oui, une réforme, et pas n'importe laquelle, oui, nécessairement, il faut une réforme, nanana, nanana, nanana. Et ensuite, on ira interviewer quelques Français dans la rue. Alors, vous croyez la nécessaire réforme de la Sécu? Oh, bah oui, il faut une réforme, hein. Oh, bah, ça peut pas durer comme ça, hein. Oh, bah non. Ben oui, et ben voilà. Et le matraquage aura fonctionné. C'est bien. Et ça s'appelle du journalisme. Ouais. Moi, j'appelle ça de la communication politique. Allez, ciao.
Bonjour, c'est Luisa de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Et je rappelle aux auditeurs de là-bas, si j'y suis, que le samedi 27 septembre à 14h à Denfert-Rochereau à Paris, il y aura une manifestation pour la paix au Proche-Orient. Et nous vous appelons à venir nombreux rejoindre les Juifs d'Europe contre Sharon. Et je vous remercie donc de bien vouloir le rappeler à chacun, notamment à propos de l'arrêt de la construction du mur. Et merci à Daniel Mermet et à toute l'équipe. Salut.
Bonjour Daniel Mermet, salut à toute l'équipe. Ici c'est les vendanges, nous sommes en plein pays du Côte-du-Rhône. Il y a du raisin à perte de vue, c'est un peu monotone à la longue, parce que putain ils auraient pu mettre un peu de... Mais bon, il n'y a que du raisin. Alors, voilà, nos tauliers, ils sont tous au FN, hein, sans déconner, hein, ici, ils ont fait un carton. Mais à part ça, c'est vraiment des... ils sont cool, quoi. Alors, voilà, je sais pas, moi, si on est des collabos ou des... Mais nous, on prend le, là où il y en a, quoi, du boulot. Alors, Mermet, ici, c'est des, tous les chômeurs qui essayent de gagner un peu de thunes, hein. Alors, le pinard, il sera bon l'année prochaine, hein, mais surtout pas celui de l'année dernière. Hein. Mais l'année prochaine, il va être bon. 2003, c'est les vendanges du siècle. Daniel, j'aime beaucoup ce que tu fais, et tu dois être un bon si t'en pas jeté encore. Salut, mon pote.
J'écoute, et c'est tellement sublime que je me dépêche, parce que je pense que tout le monde va être comme moi. Les lettres des fusillés, la fiche rouge, tout de suite. Merveille. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, la vie à en mourir.
Flight number 2, arriving from
Lyon, prison de Montluc, le 1er février 44. Mes chers parents, frères et sœurs, je vous écris ces quelques mots pour vous donner mes dernières nouvelles qui sont bonnes. Jusqu'à la dernière minute, elles m'auraient les bons. J'ai été arrêté le 14 novembre et nous avons été jugés le 15 janvier par le tribunal. Mon cher papa, ma chère maman, vous pourrez croire que j'ai toujours pensé à vous jusqu'à la dernière minute et vous embrasserez bien tous mes frères et sœurs pour moi. Je les aime toujours. Vous mettrez ma photo sur le buffet. Pas bien installé pour écrire parce que je suis sur une cheminée. Mais ça ne fait rien, cela vous fera un grand plaisir de voir de gentils mots. Nous allons être fusillés à 4h de l'après-midi. Mais c'est pas cela qui m'a coupé l'appétit. Je viens juste de manger une soupe et un morceau de pain. Le colis que j'ai reçu pour Noël, je l'ai bien reçu, maman. Tu as bien été gentil. Quand je l'ai reçu, tu ne peux pas croire ce que j'étais content, cette joie. Mais enfin, tu retrouveras tout ça chez nous, ma petite maman et mon petit papa. Il ne faut pas trop vous en faire, je sais que ce sera très dur. Mais enfin, vous aurez été fiers d'avoir un fils qui vous aimera toujours jusqu'à la dernière minute. C'est l'affaire de quelques instants. Cette lettre, vous la mettrez de côté comme souvenir pour ma petite Monique. Vous lui ferez un gros mimi. Puis pour le Marcel aussi, la Marie aussi, aussi Odette et Irène. Pépite aussi, ainsi que toute la famille. Je vais vous quitter pour toujours, mais mon cœur restera toujours avec vous. Je vous quitte en vous embrassant tous, mon cher papa et ma petite maman. Et mille baisers à tous. Lily.
Mardi 23 décembre 41, 10h, Pozzi Carlo.
Paris, prison du Cherche-Midi, dimanche 14 décembre 1941, 20h. Gabriel.
Jacques.
Prison de Fresnes, le 21 février 1944.
Prison de la Bière.
Goldberg.
Le 26 septembre
1941. Henri
Ferté. Prison de Fresnes, 10 décembre 1941. Robert.
Besançon.
Oui.
Mes chers parents, mes chers amis.
Prison de Fresnes. Le 21 février 44.
Port de Beaucoup.
Le 19 janvier 1944.
Prison de Glossely, le 15 novembre 1941. Mes chers parents, mes chers amis. Si je suis
Paris, prison de Saint-Étienne, mardi 23
février. Lyon. Prison de Montluc.
Bonheur à tous. Bonheur à tous. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. On connaît tous ces vers de Louis Aragon chantés par Léo Ferré. C'est un de nos hymnes intimes. Français, même si celui qui les a écrits est Manouchian. C'est un hymne de la communauté humaine, c'est un hymne de l'humanité, adressé à l'humanité. Ces phrases que je viens de vous lire, Louis Aragon ne les a pas inventées, il les a lues dans la dernière lettre adressée par Manouchian à Mélinée, sa compagne. « Oh mon amour, mon orpheline, disait-il, la vie à en mourir. » Les lettres de ces fusillés recueillies dans ce livre superbe, édité chez Talandier, sont des leçons de vie, témoignent d'un amour formidable de la vie, mais pas n'importe quelle vie, pas une vie courbée, pas une vie écrasée sous la botte. C'est une leçon fabuleuse de liberté que ces très jeunes gens et femmes nous ont laissé. Bien sûr, le temps passe, bien sûr, il y a toutes les instrumentalisations et les manipulations des pouvoirs, on n'échappe pas à ça, c'est ainsi. Mais aujourd'hui, le temps passant, comme si la poussière avait fini de retomber, tout d'un coup, ils nous reviennent et ils nous apparaissent dans leur superbe envie de vie. Ce que nous disait hier Odette, cette femme magnifique, la petite amie, la toute petite amie de Guy Moquet, c'est le rapprochement qu'elle s'efforçait de faire entre la jeunesse, sa jeunesse à elle qui était elle aussi prisonnière dans le camp de Chateaubriand, et la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ce rapprochement que la jeunesse ne veut pas, la jeunesse refuse et refuse à refuser, à résister, voilà le mot, résister jusqu'à donner sa vie. Aujourd'hui, on va donc retrouver ces lettres des fusillés que Thierry Scharf a fait lire à des jeunes qui ne sont absolument pas des comédiens et qui à travers leur lecture nous restitue la fraîcheur sublime de ces actes héroïques qui sont nous-mêmes.
C'est quoi cette photo là?
C'est Paul Vaillant Couturier, le directeur de l'Humanité.
Eh oui, oui.
Et mon père.
Ah, avec la casquette un peu en arrière, là, les mains dans les poches.
Toujours la casquette et la pipe, c'était mon père.
Ouais.
C'était au 94, regardez le bâtiment.
Ah oui, à la Maison des Métallos.
Regardez comment c'était.
Rue maintenant Jean-Pierre Timbaud.
Qui est maintenant rue Jean-Pierre Timbaud, avant c'était rue d'Angoulême.
Alors voilà, des rues. Ils ont laissé leur nom sur les places, des rues, des impasses. Jean-Pierre Timbaud, oui, Jean-Pierre Timbaud, rue Jean-Pierre Timbaud. Il y a des rues Jean-Pierre Timbaud à travers la France, mais qui était Jean-Pierre Timbaud? Ben, c'est ainsi, c'est l'oubli qui fait qu'on ne sait pas exactement qui était Jean-Pierre Timbaud. La femme que vous venez d'entendre, eh bien, c'est la fille de Jean-Pierre Timbaud, qui bien sûr a les dernières lettres de son père. Mais on va évoquer la figure de Jean-Pierre Timbaud avec Denis Péchanski, historien, et qui est l'instigateur de ce livre superbe, La vie à en mourir. Denis Péchanski.
Jean-Pierre Timbaud, c'est comme une figure mythique pour nous. C'est le grand dirigeant syndicaliste des années 30, exécuté à Châteaubriant comme otage en octobre 41 après un attentat contre le lieutenant Hotz à Nantes, donc le principal responsable militaire allemand à Nantes, a fait le commandant Tour. Voilà, on a ça comme image. Il y a une rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. Enfin, c'est quelqu'un qui compte, dans, y compris dans l'imagerie collective. Bon. Donc, voilà, j'ai Crivopisco qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai la lettre de Timbaud. Il me lit la lettre. Je dis, elle est émouvante, ouais, c'est fort. C'est fort, et effectivement, il faudrait la publier. Bon, mais elle était émouvante comme les autres. Quand je l'ai vue, il m'a dit, écoute, regarde. J'ai regardé, et là, le choc. La lettre était en écriture phonétique. Jean-Pierre Timbaud, grand dirigeant syndical années 30, écrivait à sa fille en écriture phonétique parce que il était analphabète. Bah. Ah. Alors ça, je peux vous dire que ça, c'était un des grands chocs de toute cette histoire pour moi. Là.
Le plus frappant, c'est aussi que cette lettre était précédemment connue du Corée, c'est ça?
Oui, on la connaissait, mais elle était écrite, réécrite, on va dire. Ça fait partie de ces histoires aussi de réécriture de la mémoire,
oui.
Pour normaliser, pour donner une image plus acceptable, apparemment.
Vos délégués qui ont su se dévouer, qui ont su faire le travail nécessaire d'explication et qui ont su défendre vos intérêts, camarades, avec cette pléiade de militants, avec votre syndicat, nous sommes persuadés que même si on met encore des obstacles sur notre route, nous saurons triompher à nouveau.
Jean-Pierre Timbaud.
La commission exécutive, qui va se réunir tout à l'heure, prendra des décisions concernant les propositions qui lui ont été faites. Mais dès maintenant, nous pouvons dire que ces propositions sont des bases susceptibles de permettre la solution des conflits de la métallurgie. Les ouvriers métallurgistes auront montré leur souci de défendre les intérêts et la sécurité du pays beaucoup mieux que ne l'a fait le patronat qui prétendait en être le seul défenseur. Que les défenseurs de cet intérêt, que les défenseurs de cette sécurité, ça n'est pas ceux qui soutiennent, qui protègent les cagouleurs, mais c'est le véritable peuple de France, le peuple des usines, le peuple des champs. C'est les masses laborieuses, c'est le Front Populaire, c'est l'union de ces masses laborieuses dans le Front Populaire. Pour la lutte menée depuis 2 années contre le fascisme, pour la solidarité menée sur le plan international, aussi bien envers l'Espagne républicaine qu'envers tous les travailleurs et combattants antifascistes, pour la lutte en un mot du pain, de la paix et des libertés dans le monde.
Et ça, c'est la flûte quand il jouait là-bas dans le camp. Il y avait un musicien qui faisait l'orchestre.
Mmh. Voilà. Vous avez pris ça dans une petite vitrine, là, dans votre bibliothèque?
Ma vitrine, oui, elle est là. Bah, vous voyez, il y a Aragon.
Ah, Aragon. Qu'est-ce qu'il a écrit, Aragon? Et rien n'est aussi sincère que d'exister comme on désire. Rappelle-toi que rien ne sert, qui n'est pas...
Le pouvoir d'aimer.
À toi.
À toi, homme de merveille, le même, toujours fait mon cœur. Crois-moi, ce n'est pas un éclat, ce n'est pas un souvenir.
À toi que le nom... On comprend pas bien, là, se pose le bonheur.
Se pose le bonheur, c'est de savoir aimer Aragon.
Alors Jean-Pierre Timbaud fut l'un des 26 fusillés de Châteaubriant de la carrière de la Sablière le 22 octobre 1941 et c'est effectivement tout à fait bouleversant
d'avoir dans sa version originelle la lettre qu'il a adressée au sien avec son absence totale d'orthographe. Quand on pense à l'important représentant syndical et homme politique qu'il a été, et puis le souvenir, l'image qu'il a laissé. Alors, Denis Péchanski, évidemment, fait allusion, comme historien, à la réécriture de la mémoire, et ça, c'est quelque chose de permanent. Alors, faut-il aller vers, espérer qu'il y a une source authentique, il y aurait une histoire authentique, et eh ben non, il n'y a pas plus d'histoire authentique qu'il n'y a de faits authentiques. Les journalistes sont les historiens de l'immédiat, mais l'histoire passée, on ne peut pas, hélas, la reconstituer dans sa vérité et ni dans son authenticité. Nous sommes condamnés, et c'est peut-être notre chance, en tous les cas, nous sommes ainsi, à interpréter. Aujourd'hui, 62 ans après, à nouveau, nous proposons cette interprétation de ce qui s'est passé à l'époque avec ses voix, ses lettres et ses mémoires.
Il y avait des lettres aussi de papa qui me faisait la morale, qui me disait, apprends bien, parce que tu vois, ton père, bon, c'est vrai que mon père, à l'âge de 8 ans, il allait plus à l'école. Donc,
au point 8 ans,
oui. Oui, il était là-bas dans le Limousin, il gardait les vaches.
Il faut dire que là, en fait, il écrit de façon presque phonétique, hein.
Oui, oui.
Mes deux grands amours, etc., c'est avec...
Oui, oui.
Bourré de fautes d'orthographe.
Oui, 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 absolument. Mon père, comme je vous ai dit, à 8 ans, il a quitté l'école, il n'avait pas du tout d'orthographe.
Et ça, pendant tout un temps, on n'a pas connu cette version-là de la lettre.
Non, pas avec les fautes. C'est la première fois qu'il prend avec les fautes.
Jacqueline, ça vous a pas gêné qu'on révèle son orthographe?
C'est de voir que quand même qu'un quelqu'un de paysan ou d'ouvrier est capable aussi d'être défendre ses façons de vivre. Moi, j'ai été longtemps, même pendant la guerre, j'entendais la voix de mon père dans la rue.
Ah bon ?
Toujours que papa était là. Il y a des moments, je me dis, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas, c'est difficile de voir quelqu'un qui était en pleine vie, qui aimait, quand tout le monde parle, il chantait, il est toujours gai. De lui retirer la vie comme ça, c'est ignoble. C'est une fierté de s'appeler Jacqueline Timbaud, d'avoir un nom d'un père qui a été formidable, comme tous ces fusillés des 27 de Châteaubriand, comme tous les autres fusillés qui ont eu le courage, ceux qui sont été fusillés au Mont-Valérien. Je crois que les familles devraient être fières d'avoir chez eux un héros. Châteaubriand, camp de Choisel, Loire-Atlantique, le 22 octobre 1941. Mes deux grands amours, c'est la dernière lettre que je vous écris. Je vais être fusillée dans quelques instants. Mes chéris, ma main ne tremble pas. Je suis honnête, un honnête travailleur. C'est vous deux qui êtes à plaindre. Il vous faudra surmonter ce grand malheur, soyez courageuse comme je le suis. Toute ma vie, j'ai combattu pour une humanité meilleure. J'ai la grande confiance que vous verrez réaliser mon rêve. Ma mort aura servi à quelque chose. Mes dernières pensées seront tout d'abord à vous deux, mes deux amours de ma vie, et puis aux grands idéaux de ma vie. Au revoir, mes deux chers amours de ma vie. Du courage. Je vous... Excusez-moi. Vous me le jurez. Vive la France. Vive le prolétariat international. Encore une fois, tant que j'ai la force de le faire, des millions de baisers. Celui qui vous adore pour l'éternité. Tiens beau. 6 juin, 500 francs que j'avais sur moi, ils vous serviront. 1 million de baisers.
Paris, prison de la santé, mardi 23 décembre 41, 10h, Pozzi Carlo.
Paris, prison du Cherche-Midi, dimanche 14 décembre 1941, 20h. Gabriel.
Jacques. Prison de Fresnes, le 21 février 1944.
Prison de la
Bian Goldberg.
Le 26 septembre 1941.
Henri
Ferté.
Prison de Fresnes, 10 décembre 1941. Robert.
Oui.
Mes chers parents, mes chers amis,
si je suis. Prison de Fresnes, le 21 février 1944.
Port de Bourbon, le 19 janvier 1944.
Rue Gabriel Véry. Rue Médéric. Rue Léon-Maurice Norman.
Lyon.
Rue Despienne d'Orgue. Rue Pierre-François-Lex. Parmi les plaques sacrées dont aujourd'hui s'est enrichi Paris, pourquoi celles-là ont-elles choisi? Pourquoi ont-elles choisi de me hanter? Parce qu'elles portent à mes yeux.
La voix de Robert Schumann, le 22 octobre 1944, inaugurant des nouvelles plaques dans les rues de Paris. 5 nouvelles rues de Paris au nom de Perry, Gabriel Perry, Pierre Brossolette, Destiendorf, Médéric et Norman. C'est vrai qu'on en connaît certaines, d'autres moins, mais ces noms de rues, de places, eh bien, nous renvoient à cette histoire de la résistance française. Et à, là, on évoque ceux de Chateaubriand, comme demain matin, on va honorer ceux du Mont Valérien. On honorera ceux des hommes d'idéal, hein, les idéaux, dit Jean-Pierre Timbaud dans sa dernière lettre à aux siens. Et Schumann, Robert Schumann, évoquant les martyrs de Chateaubriand, nous invitait au respect qu'on doit, disait-il, à ces communistes, à ces socialistes, à ces démocrates et catholiques qui se sont sacrifiés au pays. Et c'est cette mémoire qui nous revient, superbe et vive.
Vous avez des origines aristocratiques ?
Oui, nous sommes d'une vieille famille d'Aix-en-Provence, famille la noblesse de Rome, parce que mes ancêtres étaient au Parlement d'Aix-en-Provence. Ça, c'est le côté de mon père, vieille famille provençale, et ma mère, une très vieille famille encore plus, puisque mes ancêtres ont été faire la croisade de Saint-Louis. Ma mère, qui est italienne de l'Orgeril, et du nord de la Bretagne.
Rose d'Estiendorf, cette femme s'appelle Rose d'Estiendorf, et vous connaissez tous des avenues d'Estiendorf, des places d'Estiendorf. Et bien voilà, un autre hommage à l'un des fusillés les plus célèbres, qui lui n'était pas un communiste, qui était au contraire, qui venait d'une grande famille, comme Rose d'Estiendorf le suggère, mais qui était un loyal, qui était un patriote, là. La patrie avait une importance extraordinaire, et on oublie souvent que la résistance est née de ce sens de la patrie, de la nation. Il y avait de ça dans De Gaulle, et il y avait aussi ce courant des communistes qui, eux, étaient aussi, bien évidemment, des patriotes, mais qui voyaient, qui luttaient pour une transformation du monde et une transformation de la société. Tous se sont battus,
ceux qui croyaient au ciel, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Vous connaissez tous évidemment ce poème de Louis Aragon qui a été écrit en hommage aux fusillés, ceux qui ont donné leur vie à en mourir.
De là, il gagnait cette clairière qui nous fait face, dont seul ce monument que j'ai sous les yeux à présent nous sépare, et d'où une dernière fois il pouvait embrasser Paris tout entier du regard, avant de tomber sous les balles du peloton. Oui, des milliers, et parmi eux des femmes, et presque des enfants, tels ces 5 élèves de lycée Buffon fusillés le 8 février 1943, dont l'aîné n'avait pas 19 ans. J'ai sous les yeux, pendant que je vous parle, quelques-unes des lettres qu'ils écrivirent à leurs parents, une heure avant d'aller à la mort, empreinte encore de cette tendresse et aussi de cette grandeur qui est bien souvent le langage de l'adolescence. Lettre naïve et sublime et dont la lecture déchire le cœur. « Adieu, mon grand chéri, écrit Jean-Arthus à son père. Sois fort, pense que je meurs en français. J'avais rêvé de vous rendre heureux, écrit Pierre Grelot. Hélas, mes rêves en resteront là, mais je saurai mourir en français. Lucien Grelot, nous allons mourir le sourire aux lèvres. Vous m'avez fait une jeunesse dorée, je meurs pour la France, donc je ne regrette rien. Pierre Benoît, avec ses deux phrases stupéfiantes sous la plume d'un enfant, qui sait qu'il va mourir dans moins d'une heure. La vie s'appelle, nous partons en chantant. On paraît entendre le poème de Robert Destos, un des derniers qu'il ait écrit en quittant le camp de Compiègne pour Térésine où il devait mourir. Un jour, nous secouerons notre poussière sur ta poussière et nous partirons en chantant vers nos amours. La vie est brève et bref le temps. Celle de Jean Camus de Gonesse, fusillé le 25 avril 1944, écrite 2 heures avant sa mort. Ma petite maman chérie, pardonne-moi de t'avoir fait déjà tant de peine, mais aujourd'hui je vais t'en faire une autre, plus douloureuse celle-là que jamais. À 15 heures je serai fusillé, à 18 ans et à 1 mois. Avant de mourir, je demande pardon à tous les gens à qui j'ai fait du mal et qui m'ont fait du mal. J'irai au poteau la tête haute. Il faut que je sois fort comme un petit homme. Adieu, parents adorables, adieu, adieu. Un jour, au paradis, votre fils de 18 ans. Eh bien, je crois, voilà, n'est-ce pas, qui vaut bien le recueillement de cette foule immobile en ce moment, et qui donne tout son sens et tout son prix à ce monument du souvenir que l'on inaugure ce soir.
La santé, le 17 avril 1942 à 13h. Petite Française adorée, voici l'heure où tu dois avoir tout ton courage pour apprendre l'écroulement de notre beau rêve. Dans 4 heures, je ne serai plus. Ne te laisse pas aller au désespoir, petite chérie. Sois forte et fière de moi. J'ai joué, j'ai perdu, je paye. Néanmoins, avant de m'en aller, je suis malheureux en pensant à ceux que je laisse derrière moi, à mes pauvres parents qui, je le crains, en deviennent fous de douleur. J'aime mieux ne pas y penser. Je pense aussi à tous ceux qui me sont chers et surtout à toi, à notre amour chéri, si pur, si étranger de celui des autres, qui aurait fait de nous le couple le plus heureux du monde, après la grande tourmente qui va bientôt finir, sois-en certaine. J'aurais eu néanmoins la consolation avant de mourir de ne pas donner ma vie pour rien et d'avoir travaillé pour le bonheur des miens.
Voilà, c'est Renaud, il s'appelle Renaud, et il lit une lettre de son grand-oncle, Louis Coquillet, écrivant à sa compagne et à sa famille ce 17 avril 1942, depuis la prison de la Santé à Paris, à 13h, cette lettre petite Francette, adorée évidemment, bouleversant ses mots sur ce qu'il cache, plus qu'évidemment sur ce qu'il dit, sur ce qu'il retienne, de pudeur et aussi de ferveur, et puis aussi peut-être les hasards d'un engouement, d'un engagement à un moment de ces hommes et de ces femmes qui quand même sont morts pour que nous puissions aujourd'hui être qui nous sommes.
C'est la lettre de qui, ça?
Donc ça, c'est la lettre de mon grand-oncle, donc du frère de ma grand-mère paternelle. Il s'appelait Louis Coquillet, donc qui était au bataillon de la jeunesse et qui était parmi les premiers résistants à Paris, dans le groupe notamment du colonel Fabien, qui est assez connu. Et voilà, donc c'est la lettre qu'il a écrite, une des lettres qu'il a écrites avant d'être fusillé. J'ai été voir la sœur de ma grand-mère, qui est toujours vivante, qui s'appelle Angèle Texier, et pour lui demander de me raconter ce que ça avait été, qu'elle m'en dise plus sur leur motivation pour résister, alors que tout t'invite par la terreur et tout, à l'inaction et à la lâcheté. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de sacrifier sa vie alors qu'on a 20 ans, quoi?
Il avait quel âge précisément?
Il avait 21 ans quand il a été exécuté. Il avait 21 ans.
La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûla le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait. Et le jour se leva pour lui.
Il y a entre guillemets un cadre, enfin un responsable de groupe. Il était responsable des jeunesses communistes en Ille-et-Vilaine dès 1938. Donc lui, il est de ceux qui avaient des convictions politiques, mais foncièrement humanistes, en fait. Enfin, ça, je m'en suis aperçu en lisant plein de bouquins sur leurs différentes organisations. Aussi, le fait qu'ils étaient très très jeunes, et qui, en même temps qu'une résistance à une oppression nazie, c'était aussi la volonté de faire en sorte que le monde puisse... Il y a une volonté de changement de société très puissant. Puis il y a le Front populaire, c'est en 36. Les congés payés n'ont pas été obtenus en regardant la télévision. C'était des mouvements de grève très forts. Il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. C'est là aujourd'hui, l'idéal est vraiment très mis à mal. C'est-à-dire avoir des convictions, c'est pas à la mode maintenant, on peut dire. C'est presque être ringard d'avoir des convictions politiques ou humanistes véritables. C'est-à-dire on profite des congés payés, on profite des augmentations de salaire, des conventions collectives. Mais d'un autre côté, c'est pour consommer, et puis c'est pour en avoir rien à fiche de la misère qui regagne. En avoir rien à fiche de l'autre. Voilà, c'est un bonheur privé, privatisé pour soi. Chérie, depuis mon arrestation le 3 janvier, il ne s'est pas passé un jour où pendant de longues heures, je n'ai pensé à toi, à nous, à nos souvenirs, à nos joies passées, à nos peines subies ensemble, au bonheur qu'on avait droit et que nous n'aurons jamais, aux bals, aux promenades faites ensemble, enfin tout ce qui était nous. Je pensais que certainement à la même minute ta pensée venait vers moi, que tu fredonnais nos chansons, je sentais ton anxiété pour l'avenir. Petit Thierry, plus jamais je ne te verrai. Je ne t'embrasserai plus, ne te cajolerai plus, ni ne te sermonnerai. Tout est bien fini. Écoute-moi bien. Ce sont mes dernières volontés. Ne voulant pas t'obliger à ne plus penser à moi, cela serait sacrilège et impossible, je veux que toute ta volonté se tende à me chasser de ta mémoire, que je devienne un mort normal, dont le souvenir s'efface avec le temps. Tu as toute la vie devant toi, et une vie remplie d'avenir et de bonheur à condition qu'elle ne soit pas gâchée par mon souvenir sans cesse dans ton esprit. Je pense que tu dois voir ce que je veux dire. Je termine en t'embrassant très fort. La larme à l'œil cependant, ne regrettant que notre bonheur perdu. Bonjour à ta famille que je n'ai malheureusement jamais connue et courage. Si un jour tu peux visiter ma cellule, où j'ai beaucoup souffert, fais-le en souvenir de moi. Adieu. Et sache que ma dernière pensée sera pour ma petite chérie, que j'ai aimée plus que ma vie. Louis.
Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime, à la première crise de peur ou de colère. Parce que deux des bourreaux de la France,
de Gaulle 1941,
à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg 100, 200, 300 Français et les massacres. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple français reçoive un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner. Il vient du Comité national français qui dirige la nation dans sa résistance. Voici. Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Tôt ou tard, d'ailleurs, ils sont tous destinés à être abattus, soit par nous, soit par nos alliés. Mais il y a une tactique à la guerre. La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par moi-même et par le Comité national.
Prison de Fresnes, le 21 février 44. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. En quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté seront honorés notre mémoire dignement.
Manouchian, voilà l'homme qui a inspiré le poème de Louis Aragon, mais ils n'étaient pas seuls, ils étaient tous sur la fiche rouge, tous ces étrangers avec leurs noms difficiles à prononcer, qui se sont battus pour la France et pour leur idéal, et qui ont été fusillés. Sans piété excessive, écoutons le cœur ouvert, les paroles de Manouchian.
Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur. Et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide de mes amis, qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau et à ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien, bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Manoukian Michel. Post-scriptum, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ».
Paris.
Et les mornes matins, un été différent.
Gabriel.
prison de Fresnes.
Tout avait la couleur.
Merci à tous. C'était un reportage superbe de Thierry Scharf, technique aujourd'hui Olivier Rieuter, Benjamin de la Gâtinais, assistant Joël Levert, le répondeur c'est Christophe Imbert, musique Coyen Guyenne, c'est Antoine Chaot qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Pas de pub aujourd'hui, j'en prends la responsabilité. Il est 18h sur France Inter. On retrouve pour le journal Delphine Simon. Salut.